gonna let you go, okay?
Et nous voilà pour une émission carnet de route du projet Samarconde.
I'll do it.
Samarconde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté.
Salut, salut à tous.
Bonjour, Bilal.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Nyx.
Bonjour.
Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis en train de grandir, mais c'est dur, quoi.
Vous respirez, je veux partir où vous êtes plus à l'aise.
Vous pouvez parler franchement, ça me dérangerait pas.
On est sur Terre, on l'a peut-être pas demandé, mais on peut vivre avec.
Qui on est pour juger quelqu'un d'autre?
Les carnets de route, ce sont des projets éducatifs proposés par l'AMO Samarcande.
I'll do it.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mitch dans le studio à Samarcande pour parler d'un thème qui nous concerne tous, l'appartenance. On va explorer ensemble ce que ça veut dire que se sentir à sa place, comment on se construit avec les autres et comment nos liens avec la famille, l'école, les loisirs ou la société nous façonnent. Bonjour Mitch.
Bonjour à vous, comment allez-vous?
Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé une nuit blanche, mais je suis heureux de te voir aujourd'hui ici dans le studio grâce à ton cousin.
Mucho,
qui est venu faire le projet il y a quelques semaines. Et qu'est-ce qu'il t'a expliqué du projet, Mitch?
Donc, de ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit qu'il avait une bonne expérience, notamment une interview vis-à-vis de l'appartenance, et qu'il m'a dit qu'il avait pensé à moi par rapport à toutes les discussions qu'on a déjà eues auparavant, même depuis qu'on est petit. Et il m'a même dit que dès que j'avais fini, je devais l'appeler pour qu'on en parle et qu'il avait envie d'en parler avec moi. Du coup, il attendait que je finisse, voilà, quoi.
Mitch, pour ta présentation, tu as, ce que je sais de toi, 21 ans.
Oui, c'est ça.
Et tu fais des études d'assistant social.
Tout à fait.
Est-ce que je pourrais savoir en quelques mots pourquoi?
Oui, pas de souci. C'est déjà par rapport à ma personnalité. Et pour moi, le social, c'est un travail très important. Mais je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on va privilégier plus des travaux qui te permettent d'avoir une certaine position dans la société, soit financière ou soit une position... qui est valorisé socialement, et du coup ça peut créer malheureusement, en fait, on va dire pas une discrimination, mais on peut dire qu'on va inférioriser les travaux sociaux, parce qu'en fait c'est plus un travail de vivre ensemble et d'essayer d'aider son prochain ou d'aider une personne qui n'est pas forcément à une certaine place dans la société, etc. Du coup voilà, en quelques mots.
Et ça peut créer aussi de la frustration chez le travailleur ou chez la personne, tout simplement.
Ah oui, tout à fait. Parce qu'à mes yeux, personnellement, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'indignent, par exemple... les infirmiers, des fois, qui travaillent toutes les nuits, etc. Les travailleurs sociaux, malheureusement, qui... Enfin, des fois, on ne met pas trop en avant leur travail. Et puis, il y a d'autres travaux... Enfin, bon, tous les travaux sont nécessaires. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est important de surtout mettre un point d'honneur sur les gens qui essayent de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une position plus ou moins stable dans la société. Voilà. Voilà.
Ou se reconstruire.
Exactement.
Je te remercie, Mitch, mais ça, on aura l'occasion probablement de l'explorer. Ce que je te propose, c'est mon petit canevas qui, moi, me rassure aussi. Je te propose, pour commencer, c'était un mini-jeu. Ce sont quatre affirmations et je te demanderai de réagir.
Pas de souci.
De te positionner, de dire je suis d'accord ou pas d'accord,
pas
et puis de l'explorer. Première affirmation, Mitch, c'est celle-ci. Les adultes sont parfois nos modèles ou les adultes sont parfois des modèles.
Personnellement, non, pas pour moi. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma manière d'être, je donne plus du crédit aux idées d'une personne, c'est-à-dire ce que j'en pense de comment elle développe son idée, de la curiosité ou de la réflexion qui est derrière, etc. J'accorde plus de crédit à ça plutôt qu'à sa position, soit par l'âge ou soit par son niveau académique, etc. C'est-à-dire qu'un adulte n'est pas nécessairement pour moi un modèle, enfin... Personnellement, je pourrais... Un enfant qui dit des choses qui m'intéressent, je pourrais plus l'écouter qu'un adulte. Donc, à mes yeux, un adulte n'a pas un argument d'autorité vis-à-vis de moi.
Deuxième affirmation, les jeunes ont souvent de bonnes idées.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord et je trouve que des fois, en fait, le fait d'être jeune dans la société peut être stigmatisé, ce qui fait que les idées peuvent des fois être infériorisées ou non entendues, ou des fois des gens pensent que la personne pense ci parce qu'elle n'a pas assez d'expérience, mais plus tard elle pensera autre chose, ce qui peut, je trouve ça assez diminuant, et voilà, donc oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là.
Troisième, Mitch, tes choix t'appartiennent?
Très bonne question, et je suis très mitigé par rapport à cette affirmation, parce que je suis en même temps d'accord, et en même temps je suis pas forcément d'accord. Pour moi, on va dire que les choix sont relatifs souvent à une position et à un climat qui est soit induit par la société ou par l'éducation ou par la culture ou par tout l'environnement qui encadre une personne. C'est-à-dire que Oui, une personne pourrait avoir un choix, mais pour moi, ce choix-là est déjà basé sur des choses qu'elle n'a pas décidées.
D'où ça vient cette sensibilité, Mitch ?
Vis-à-vis de ce sujet-là ?
De beaucoup de sujets, je crois.
Très bonne question. Je pense que d'abord, ça vient de mon éducation, déjà, premièrement. Et aussi, moi, mes parents, ils ne pensent pas du tout comme moi, personnellement. J'ai beaucoup de... Enfin, on est très en désaccord, moi et mes parents. Mais c'est surtout... Ils m'ont quand même appris une chose, c'est l'esprit critique et la curiosité. Et ça, c'est une chose qui m'a suivi toute ma vie. Et depuis que je suis petit, je suis curieux. J'aime bien l'histoire, j'aime bien la sociologie, j'aime bien me cultiver. Et j'aime bien regarder les choses, pas uniquement en lisant, mais en observant ce qui m'entoure, etc. Et pour moi, ça vient plutôt de là.
Merci, Mitch. Quatrième affirmation, c'est « les autres ne m'appartiennent pas ».
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, les autres ne m'appartiennent pas. Mais moi, personnellement, même, j'aime bien dire cette phrase « I belong to the people ». Pour moi, j'appartiens au peuple et c'est très important pour moi. Donc, je suis prêt à appartenir aux gens sans qu'ils m'appartiennent. Je suis prêt à être proche des gens sans qu'ils soient proches de moi. Et moi, je veux juste une élévation, une stabilité pour tous. Pour moi, les autres ne m'appartiennent pas. Voilà.
Je te remercie beaucoup, hein, Mitch. Je te propose c'est qu'on écoute ta première musique.
Non, pas de souci.
Et dans le choix que tu as fait, laquelle serait la plus...
Je dirais We Are The World de Michael Jackson. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. That someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Merci, merci Mitch pour ce choix. Ce que je te propose maintenant, c'est de poursuivre dans l'idée, dans le sujet de l'appartenance, sur la famille.
Pas de souci.
Et j'ai une série de petites questions encore, hein. Mitch. La première, c'est qu'est-ce qui te faisait sentir en sécurité quand tu étais tout petit ?
Qu'est-ce qui me faisait sentir en sécurité quand j'étais tout petit ? Je dirais, c'est être avec mon frère. Hein. J'ai un frère jumeau, ah ouais, ça, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Ouais, j'ai un frère jumeau et mes parents... Ils travaillaient souvent tard le soir Et on a été vite autonomes, c'est-à-dire que dès la primaire, on rentrait déjà seul et on restait jusqu'au soir en les attendant. Et c'est-à-dire que moi et mon frère, on était toujours ensemble, tout le temps, tous les soirs en fait, tout le temps. On rentrait seul, on restait tout le temps seul. Enfin, j'aime beaucoup mes parents, mais c'est plus avec mon frère que j'ai passé du temps. Bon, j'ai passé aussi beaucoup de temps avec ma mère, mais je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, c'est la personne à qui je me confie le plus, c'est la personne qui sait le plus de choses de moi.
Dans ta famille, Mitch, qu'est-ce qui t'a aidé à te sentir toi-même ?
Je dirais c'est mon père. Hein. Parce que mon père, même si on est souvent en désaccord et on n'a pas des idées qui sont similaires, mon père c'est un homme qui incite les gens à critiquer les choses et à s'instruire. C'est-à-dire, il m'incitait beaucoup à lire. C'est grâce à lui que j'aime tous ces sujets-là. Et c'est lui, le fait de m'instruire, de lire, etc., je me suis senti... En fait, je me sentais appartenir aux choses que je lisais, avec lesquelles j'étais d'accord, et je me sentais en désaccord avec les choses qui ne me correspondaient pas, sans nécessairement les suivre, parce que je devais les accepter ou pas. Enfin, c'est un esprit critique qui s'est développé, voilà, c'est tout à fait ça.
Et quand tu disais être soi-même, si des adolescents plus jeunes que toi t'entendent, ou même des plus âgés, comment tu leur expliquerais, s'ils te posaient la question, Mitch, ça veut dire quoi être soi-même ?
Je leur expliquerais que déjà, être soi-même, c'est déjà... essayer de se délier de la vision que la société pourrait avoir de la personne et se délier d'une obsession ou d'une direction qui devrait être forcément acceptée par la majorité. Donc pour moi, être soi-même, je dirais à ces jeunes-là, c'est d'accepter d'être soi-même, même si le fait d'être soi-même pourrait t'écarter d'une certaine vision que la société aimerait t'attribuer.
Et pourquoi la société, elle voudrait attribuer des rôles ou quelque chose pour les individus ?
À mes yeux, personnellement, je trouve que pourquoi, ça c'est une très bonne question. Pourquoi c'est une très bonne question, mais je pourrais dire que c'est très long à expliquer, je trouve. Mmh. Mais je pourrais le faire, mais ça rentrerait même historiquement, économiquement, les différents courants et les différentes idéologies liées à l'économie de certains pays, enfin beaucoup de raisons. Mais pour moi, je dirais que la société préfère catégoriser les gens par sécurité et on va dire par conformisme. Les gens n'aiment pas nécessairement voir des identités qui diffèrent les unes des autres. Ils voient ça comme de l'insécurité, en fait, c'est ça. Pour se sentir en sécurité, les sociétés préfèrent que les gens soient uniformes. Voilà.
Autre question, Mitch. Est-ce qu'on appartient à ses parents, à leur culture ?
Est-ce qu'on appartient ? Oui, en fait, je trouve que ça peut se débattre, mais pour moi, oui. Parce qu'en fait, même si on essaye de s'en délier, malheureusement, la société va toujours nous rappeler à l'ordre. Par exemple, on prend le cas d'une dame qui naît dans une famille maghrébine. Même si ses parents l'éduquent à croire en Allah et qu'elle soit musulmane, même si elle fait le choix de ne pas être musulmane et de vivre une vie de non-musulmane, malheureusement, la société va faire l'amalgame vis-à-vis de sa ressemblance aux personnes qui sont musulmans. Donc, malheureusement, oui, on appartient à la culture de nos parents, même si on essaye de s'en délier. Oui.
Ici, n'hésite pas, Mitch, d'être dans le jeu, d'être plus personnel.
Ah, ok.
Parce que tu prenais l'exemple d'une jeune maghrébine. Mmh. Mais vis-à-vis de toi, est-ce que vis-à-vis c'est un sentiment que tu ressens aussi ?
Oui, c'est un sentiment que je ressens, parce qu'en fait, c'est un sentiment que je suis obligé de ressentir. Par exemple, moi, je suis noir de peau, je suis rwandais, burundais, tanzanien. Je ne pourrais jamais m'en délier. Et beaucoup de choses dans ma vie seront basées sur ça, soit d'un œil extérieur, soit de mon propre œil à moi, soit des choses à laquelle je vais m'apparenter, des choses à laquelle je vais m'approcher. Donc pour moi, oui, on appartient dans le sens où on y est lié. Pas on y appartient en mode où on y est enchaîné.
C'est une grande différence. Ouais. Merci Mitch. Ici, c'est quelques questions sur la construction personnelle. Est-ce qu'on peut être soi-même partout ? Dans tous ces groupes d'appartenance, hein, en famille, à l'extérieur, à l'école.
Moi, je prône personnellement pour que ce soit le cas. Personnellement, pour moi, on devrait être soi-même partout. Malheureusement, il y a des fois des moments où c'est compliqué, parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter le soi-même de tout le monde. Du coup, ça crée des positions où des personnes doivent plutôt s'acclimater à d'autres, tout en laissant leur vraie personnalité de côté, etc., pour être accepté par le groupe, etc. Donc, à mes yeux, ça ne devrait pas exister. Pour moi, tout le monde devrait être pareil, enfin, soi-même partout. Mais quand j'observe les choses, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et j'en suis triste, personnellement.
Et tu, c'est quelque chose que tu peux ressentir dans tes études, par exemple, dans tes...
Ah oui. Oui. Par exemple, je peux vous le dire, dans mes études d'assistant social, personnellement, j'estime pas avoir la bien-pensance de ce qu'est être un assistant social, mais je ressens souvent qu'il y a des personnes vis-à-vis de leurs propos, je me pose la question de qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils ont envie de faire ces études-là, alors que ça va un peu à l'encontre de leurs propos, etc. Donc moi, je dirais qu'il y a quand même des fois des dissonances. Ouais, des dissonances des personnalités en fonction de là où ils sont. Ouais.
Est-ce que la famille nous accompagne, Mitch, pour devenir qui on veut être ?
Très bonne question. Qui on veut être, ça dépend des parents et ça dépend des familles. Il y a des familles qui ont une ligne très directrice de la vie. Donc ces gens-là, bon, c'est pas forcément une volonté. Hein. Souvent, ça vient d'une éducation qui les amène à suivre, on va dire, un certain ordre. Donc je leur en veux pas. Mais du coup, ces gens-là, malheureusement, n'aident pas forcément les personnages de leur famille à être ce qu'ils veulent être pour de vrai. Mais il y a des parents ou d'autres membres de la famille qui, eux, juste en écoutant les gens, en écoutant leurs choix, là, en donnant des libertés, etc., oui, eux, ils peuvent être responsables du cheminement. Oui.
Tu penses que tes études étaient nécessaires, que tu n'es pas dans le soin à l'autre depuis bien longtemps? Et peut-être grâce à ta famille.
Personnellement, oui. Mes études, elles sont plus basées sur le fait que j'aimerais bien travailler dans un travail où je suis en accord avec mes valeurs. J'aimerais pas devoir faire un travail pour nourrir ma famille qui est basé sur des choses qui vont en l'encontre de mes valeurs. Donc c'est pour ça que j'ai priorisé l'aspect professionnel de l'assistance sociale. Mais bien sûr que oui, personnellement, j'estime que même sans... J'aimerais bien aider les autres, même sans... le faire professionnellement, bien évidemment.
Merci, hein. Merci beaucoup, Mitch. Je suis très heureux que tu sois venu, hein, que tu aies accepté ce rendez-vous pour
faire
le...
C'est un
honneur. Oh, merci. Qu'est-ce que tu as construit, Mitch, toi-même, en dehors de ta famille et qui te ressemble ?
Qu'est-ce que j'ai construit moi-même en dehors de ma famille et qui me ressemble ? Je dirais, bon, c'est très introspectif, c'est peut-être même très égoïste, mais ma personnalité, hein. C'est la chose que j'ai le plus étudiée, que j'ai le plus critiquée, que j'ai le plus observée, que ma personnalité et mon rapport aussi avec les autres, l'empathie aussi, essayer de comprendre pourquoi les gens pensent pas comme moi, pas être nécessairement en une position, mais ces gens-là, ils comprennent pas, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Et ça aussi, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'en fait, quand on commence à démarcher sur notre propre personnalité, on a du mal à comprendre pourquoi les gens ne pensent pas comme nous. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que moi aussi, j'étais comme ça. Et en travaillant, en essayant de comprendre pourquoi les gens pensent comme ci, pourquoi moi je pense comme ça, pourquoi des gens comme ci pensent comme ça, et je trouve que c'est un travail important.
Qu'est-ce qui peut te mettre en colère chez les autres ?
Je dirais la stigmatisation aussi. Ben, la stigmatisation, déjà, ça me met en colère, personnellement. Et aussi, je dirais... Enfin, bon, ça c'est presque du mépris de classe, mais c'est un manque de curiosité. Malheureusement, il y a des gens qui aiment bien se conformer à ce qu'on leur dit et à ce qu'on leur apprend et à la position de certaines personnes. Oui, ces personnes-là, bah, elles sont comme si, parce qu'on m'a dit que ça, et voilà. Sans essayer de vraiment comprendre, je trouve que ouais, ça c'est une chose qui me révolte personnellement. Ouais. Never be the same. 'Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dues, and I'll be all you need. Sanity, I waited patiently. Girl, you know it.
retrouve dans le studio ici. Merci beaucoup, Mitch, pour.
Merci à toi.
Pour la musique. Je te propose de parler de l'école un peu.
Oui, avec plaisir.
Maintenant, toujours avec une série de petites questions. La première, la voici. Qu'est-ce qui te fait ou te faisait sentir bien ou compris à l'école, Mitch ?
Il y a deux choses. Premièrement, c'est mes amis. Hein. Moi, j'étais beaucoup avec mes amis. J'ai jamais été quelqu'un de turbulent, etc. Mais j'étais pas timide. C'est-à-dire que je parlais avec beaucoup de gens, j'étais aimé de beaucoup de gens. Je prenais parole en cours aussi. J'étais actif en classe, etc. Et ça, c'était quelque chose qui me... Je me sentais bien comme ça. Ouais.
Est-ce que l'école t'aide encore aujourd'hui ou t'a aidé à découvrir qui tu es et à mieux te connaître ?
Personnellement, il y a des moments précis de choses que j'ai vues en classe qui m'ont fait comprendre des choses que je n'aimais pas. Oui.
Par exemple ?
Je pourrais donner un exemple. Par exemple, l'année passée, je faisais des études de ressources humaines. Et à ce moment-là, je comptais quand même faire du social après, mais je n'avais jamais pensé à faire directement le bachelier d'assistance sociale. Du coup, j'étais en ressources humaines. Et on avait eu un cours de philosophie des ressources humaines. Et en fait, ça m'a tellement révolté. J'ai trouvé ça tellement révoltant, en fait, le fait qu'on devait attribuer une philosophie à des prises de position liées au licenciement de certaines personnes, etc. Ça m'a chamboulé, en vrai. C'est un exemple précis. Et sinon, en vrai, l'école à proprement parler, c'est pas une chose que j'ai nécessairement... Enfin, ça va être... Enfin...
Vas-y.
Ok, c'est pas une chose dans laquelle j'ai déjà essayé de me sentir valorisé. Moi, personnellement, ma mère, par exemple, elle a fait des études de droit. Elle a un master en droit à l'ULB. Et moi, j'étais un élève... J'étais un élève curieux, actif en classe, mais j'étais pas du tout studieux. Hein. Ça veut dire que les notes ont jamais suivi. J'ai redoublé deux fois en secondaire. Et les profs, à chaque fois, ils me disaient « Ouais, t'es très gentil, t'es très intelligent. » Curieux, tu réponds en classe, mais tu fais rien, tu n'étudies pas. Et moi, je le savais. Donc, je me suis jamais senti infériorisé par rapport à ça, mais du coup, ça a créé des conflits avec ma mère. Et c'est basé sur ces conflits-là que j'ai déjà réfléchi à ma vision de l'école, etc. Comment ça se fait que, juste parce que je ne fournis pas certains points, et bien, du coup, je suis infériorisé. On pense que. Enfin, voilà, c'est par rapport à ça. C'est pas vraiment l'école à proprement parler, personnellement, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde.
Comment cette situation a transformé ton rapport avec ta maman, justement ?
Ben, en fait, ça nous a formé. Enfin, ma mère, elle était très studieuse et elle voit l'école comme. Ah, voilà, c'était une chose avec laquelle j'étais en désaccord. Pour elle, pour ma mère, l'école, c'est pas une étude de la vie. Elle dit que c'est l'école de la vie. Elle dit que l'école, c'est une chose qui t'apprend à vivre. Elle voit ça comme ça. Et moi, ça m'a toujours surpris. Je me dis, mais comment ça se fait ? Ça veut dire que si je ne vais pas à l'école... Et j'étais jamais d'accord avec elle par rapport à ça. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il y a des gens qui voient l'école vraiment d'une manière très terre-à-terre. Soit d'une manière très terre-à-terre, donc c'est juste des points, ou soit d'une manière très éducative et très familiale et très humaine. Ce qui n'est pas mon cas. Pour moi, c'est une institution qui vise à éduquer, enfin enseigner plutôt... Je ne vois pas ça comme un second membre de ma famille qui est là pour faire en sorte que je me sente comme ci ou comme ça.
Mais les autres, est-ce qu'à un moment, ça ne devient pas super important, Mitch ? Et ça t'oblige, quelque part, à être proche des autres et de pouvoir vivre quelque part dans une communauté
bien sûr.
De gens qui ne sont pas de ta famille.
Cette partie-là de l'école, je suis tout à fait d'accord avec toi. La partie sociale de l'école, je trouve ça très important. Ça permet d'apprendre à vivre ensemble, etc. Ça permet de voir qu'il y a des différences entre les personnes, parce qu'on peut voir des différences entre les personnes qui vont dans une école uniforme, par exemple, où tout le monde est pareil, et des gens avec de la diversité, etc. Ça diffère, ça joue sur les rapports sociaux plus tard, même actuellement. C'est très important, oui, ça, je suis d'accord. C'est très important.
Et développer son esprit critique, en parlais tout à l'heure. Est-ce que l'école forme aussi oui. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'a été inculqué enfin...
Personnellement, je ne trouve pas que l'école incite les gens à développer un esprit critique. Je trouve même le contraire. Je trouve que ça forme les gens à avoir une vision qui est très directrice. Et malheureusement, je trouve que même par exemple, quand on regarde la différence de traitement entre les personnes qui sont en général, moi par exemple j'ai fait l'école générale, et la différence de traitement avec les personnes qui sont en technique, il y a déjà, en général je trouve qu'on a déjà, l'esprit critique peut plus être développé, parce que c'est comme si c'était que la personne attendait, alors qu'en technique, on va moins porter d'intention à... Je sais pas comment l'expliquer. Parce que même, par exemple, les types de questions en secondaire, quand j'étais en général, il y avait des questions souvent vagues. Et le prof disait, oui, la question est faite exprès qu'elle soit vague, parce que c'est à toi de réfléchir. Si tu arrives à comprendre et à critiquer la question et à comprendre ce qu'on attend de toi, eh bien oui, c'est une forme de développement de l'esprit critique.
Ou juste de dire, votre question, vous l'avez fait exprès qu'elle ne soit pas assez claire.
Exactement. Ce n'est pas le cas dans certains types d'enseignement où il y aura moins cet aspect-là de faire des questions vagues ou de faire des questions ouvertes. Ce sera plus de, ouais, dis-moi... Ça vaut combien, et voilà, puis tu donnes au prof une note.
Comment tu le sais ?
Comment je le sais ?
Faire cette comparaison.
Je dirais déjà, c'est un ressenti, et c'est un ressenti aussi que je peux voir vis-à-vis des gens qui m'entourent. Moi, par exemple, j'ai fait l'école générale, je suis la seule personne de mon entourage qui l'a fait. Genre, les autres sont partis, et ils ont été redirigés autre part, et je leur pose des questions, même quand on parle, etc., c'est des choses que je comprends, et même c'est des choses qu'on a déjà vues. J'ai déjà vu ça l'année passée en ressources humaines. Le prof nous a expliqué ça, les différentes compétences qu'on cherche à faire développer aux gens en école générale, qui sont différentes dans l'école technique. Donc c'est des choses qu'on m'a déjà dit. Ouais.
Et pourtant, ce sont des études aussi qu'il faut pouvoir valoriser pour tous ces étudiants, tous ces jeunes qui se retrouvent là-bas, et parfois qui ne comprennent plus le sens, hein. Et qui sont relégués, tu parlais tantôt de stigmatisation.
Exactement.
Et il y a beaucoup de jeunes qui disent avoir l'impression de ne pas être à leur place parce que le choix, il s'est avéré difficile, impossible, ou l'école n'intéressait plus.
Mais justement, par rapport à ça, je suis totalement d'accord parce que, par exemple, moi, une chose qui me révolte, c'est entendre des profs qui sont fiers d'avoir travaillé dans des écoles prestigieuses. Moi, c'est quelque chose qui me surprend parce que pour moi, quand on est enseignant, ça me surprend d'avoir une fierté d'avoir enseigné dans une école prestigieuse. Pour moi, l'enseignement, il est censé être pour tout le monde. Je ne vais pas avoir plus envie d'enseigner à quelqu'un qui a une certaine position qu'à une autre.
Mitch, est-ce que toi, tu te ressens comme étant privilégié ?
Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Par exemple, ma mère, elle a étudié, elle a fait des longues études. Mon père aussi. J'ai eu beaucoup de livres chez moi. Mes parents, enfin, j'ai toujours été... Je ne suis pas aisé, mais je ne suis pas à plaindre. Et bien sûr... Bien sûr, je me sens très privilégié. Ah oui, ça, oui, sûr. Enfin, je me sens privilégié, oui.
Contrôlé,
c'est-à-dire... Moi, non, j'ai tout fait pour ne pas me sentir contrôlé. Ma mère le sait, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc, je me suis permis... Ah, déjà, en fait, sortir du contrôle aussi, c'est une forme de privilège aussi. Parce que les gens qui sont sous-privilégiés, des fois, ils ont moins l'opportunité de sortir du contrôle. Par exemple, je vais prendre un exemple, bon, qui n'est pas personnel, hein, mais c'est le plus facile à identifier. Mais par exemple, un ouvrier, il a moins le privilège de pouvoir sortir du contrôle de sa fonction professionnelle. Genre, il a moins de capital culturel, il a moins le temps de s'adonner à certaines choses, il a moins le temps...
Tu penses pas que ça, c'est une idée qui peut... Et tu ne peux pas la généraliser, cette idée-là ?
Ah oui, bien sûr que oui, je ne la généralise pas. C'est très englobant pour imager, en vrai. Bah, bien sûr que tout le monde est différent, ça c'est sûr. C'est juste pour schématiser, plus ou moins. Mais oui, c'est, pour moi, personnellement, je me trouve privilégié. Ouais.
Je te remercie, hein, Mitch. J'espère que mes questions te pas mal à l'aise.
Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Est-ce qu'être jeune aujourd'hui, Mitch, c'est avoir peur d'être rejeté ? Et est-ce que le comprendre, ça peut aider ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que, en vrai, personnellement, des jeunes que je connais, ça, personnellement, dans mon entourage et même de ce que je vois, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a développé une certaine, on va dire, pas une rage de vivre, mais une idée qu'elle est prête à s'imposer. Donc le rejet des autres... Il est difficile à identifier, je trouve. Mais oui, c'est vrai que certains peuvent avoir une peur d'être rejetés si elles se sentent à l'écart de la société, mais je ne pense pas que c'est lié à la jeunesse. Je pense que c'est lié à d'autres contextes, par exemple l'orientation sexuelle ou l'origine ou la religion ou la position financière, etc. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Ouais. Mais être jeune, ça peut jouer aussi en vrai. Ouais. Faudrait que je me questionne dessus.
Mais t'as moins d'histoire aussi. Et puis ça dépend du contexte.
Moins d'expérience, c'est vrai aussi.
Familial peut-être aussi.
Ouais, c'est aussi ça.
Est-ce que ce ne sont pas les premiers liens de rassurance avec le monde ?
Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'avoir une vie de famille, c'est quelque chose qui peut te rapprocher et te mettre en sécurité, ça c'est vrai. Moi, je suis d'accord.
Ouais. T'as l'impression que c'est le ciment qui va consolider ta maison ? Enfin, ta maison, oui ?
Personnellement, moi non. Mais je sais que pour certains, oui.
Ou c'est nécessaire ?
Oui, il y en a, ils en ont vraiment besoin. Oui, oui, oui. Ça,
parce que tu parles d'orientation, l'orientation de genre, etc. Ça, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup plus aujourd'hui.
Ah oui.
Vous, les jeunes, de votre génération, beaucoup d'idées d'ouverture qui se confrontent à certaines idées passées. On est en plein là-dedans pour le moment. Mais comment est-ce que est-ce qu'il n'y a pas parfois un conflit entre ce que le jeune désire en termes d'ouverture? Est-ce que les parents accompagnent parfois,
bien sûr.
Tu vois, d'une manière un peu fermée,
bien sûr,
ces désirs-là?
Mais même moi, par exemple, même moi qui me sens très, on va dire, prêt à aller à l'encontre de ce que mes parents pensent, même moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait beaucoup de sujets où j'étais pas encore assez éduqué. C'est-à-dire que oui, par rapport à la culture qu'on va t'induire, il y a des fois des oppositions. En fait, on a envie de croire et d'accepter les gens, mais en même temps, on est éduqué à ne pas le faire. Du coup, c'est compliqué, c'est quelque chose qui doit se développer avec le temps. Et moi aussi, c'est quelque chose qu'en ce moment, je suis beaucoup en train de m'éduquer dessus.
Et parfois, est-ce qu'il n'y a pas un chemin inverse où vous êtes plein de cette énergie, de ce changement? Et est-ce que c'est à vous d'éduquer les parents? C'est un peu provocant.
Oui,
hein,
oui, bien sûr.
Est-ce que c'est possible?
Ah oui, c'est possible. Moi, personnellement, c'est ce que je fais avec ma mère, personnellement. Je fais tout pour le faire parce que je me dis que eux, ils ont vécu en leur temps. Moi, je vis en le mien. Ils sont là en même temps que moi. Je me sens responsable et je me sens un peu obligé d'essayer de les éduquer vis-à-vis de ça.
Comment tu sais que tu es dans le juste?
Personnellement, à mes yeux, ça c'est à titre personnel, pour moi, quelqu'un qui est du côté des opprimés ou qui est du côté des gens qui sont discriminés, il est forcément dans le juste. Après, c'est un peu compliqué aussi. Parce que des fois, on pense être dans le juste, mais avec des applications qui ne sont pas forcément justes. Après, ça c'est plus philosophique. Est-ce que c'est bien d'utiliser le mal pour protéger les gens qui sont discriminés? Donc ça devient...
Quel exemple aurais-tu là?
Un exemple, par exemple, je peux prendre l'exemple des révolutions. Enfin, je vais prendre un exemple très historique, ça ne dérange pas. Moi, je suis rwandais, donc il y avait le génocide au Rwanda. Donc les Hutus tuaient les Tutsis. Et les Tutsis d'Ouganda sont venus pour tuer les Hutus, du coup pour défendre ceux qui étaient opprimés. Et aujourd'hui, du coup, les Tutsis sont au pouvoir et ils vont chercher les Hutus au Congo par peur qu'ils reviennent au Rwanda. Et en même temps, eh ben, ils pillent le Congo. Tu vois. Ça veut dire que l'idée de base était positive. Et même, on voit ça surtout dans les révolutions en Afrique, en Tunisie, même dans beaucoup de pays africains, où en fait la personne qui crée la révolution, donc qui s'oppose aux colons, qui est prêt à repousser le colon, quand il s'installe au pouvoir, on voit souvent qu'après, c'est la répression, c'est l'oppression, c'est la corruption. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué.
Un jeune qui était ici, il n'était pas originaire exactement de cette région, mais il disait le retour qu'il avait envie de faire sur cette histoire-là, le poids de cette histoire, mais de façon aussi positive. Il avait besoin de récupérer, de se souvenir. Et donc c'était tout un travail introspectif où il allait questionner aussi ses ancêtres, ses parents.
Très important.
Avec ce besoin. Est-ce que tu te reconnais?
Ah oui, personnellement, je me reconnais vraiment là-dedans. Ah oui.
Qu'est-ce que cette richesse, elle peut nous apporter? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à ce vivre ensemble ici en Belgique?
À mes yeux, en fait, elle pourrait mettre tout le monde sur un même... on dirait sur une même égalité historique déjà, premièrement. Bon, je suis beaucoup sur l'histoire parce que moi, c'est beaucoup l'histoire que j'ai schématisée, mais dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cultures qui sont infériorisées et d'autres qui sont supériorisées. Et je trouve que malheureusement, des fois, même les personnes qui, comme tout à l'heure, on en a parlé, est-ce qu'on appartient à la culture de nos parents? Et bien du coup, des fois, même ces personnes qui appartiennent à la culture de leurs parents, en fonction de l'éducation qu'ils reçoivent, ils peuvent être amenés à même, eux, inférioriser la culture qui leur est propre. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue les amène à le faire. Et je trouve que c'est important de, du coup, s'instruire, essayer de comprendre comment ça se fait que je vois ce peuple comme ci, comment ça se fait que moi, je peux penser que ce peuple, il est comme ça, comment je peux essentialiser tout un peuple sur base de ce qu'on m'a appris. C'est important. Et c'est ce garçon-là, je suis d'accord avec lui, parce qu'en fait, en faisant ça, il crée, on va dire, une sorte d'humanisme, et il commence à comprendre qu'en fait, tous les peuples sont au même pied d'égalité et qu'il n'y en a aucun qui devrait être supérieur à l'autre. Et il a totalement raison, je suis totalement d'accord avec lui.
Et ce n'est pas ce que l'histoire nous enseigne.
Hein. Ah oui, malheureusement pas.
Et tu crois que toi, avec ta vision de jeune de 21 ans, tu te dis un jour ce sera possible de rééquilibrer ? Tu parlais d'égalité historique.
Alors, je ferai tout pour. Personnellement, dès que j'ai l'occasion d'en parler avec quelqu'un, je le fais. Je ne peux pas le faire autrement pour l'instant. Enfin, si. Enfin,
ouais. Pardon, Mitch, mais est-ce que tu penses que cette égalité historique, on pourrait, je ne sais pas si c'est la rétablir, mais avec douceur. Est-ce que tu crois que c'est possible ?
Je suis très positionné sur cette question-là. Personnellement, je ne sais pas si je peux en parler, mais il y a beaucoup de... Par exemple, le capitalisme de certains pays ne permet pas à l'égalité historique, parce qu'en fait, ces personnes-là qui utilisent l'idéologie du capitalisme en fait, pour capitaliser, en fait, c'est un frein à l'histoire. Parce que, je vais prendre l'exemple des pays africains, à mes yeux, le fait que ces gens-là, les dirigeants, appliquent le capitalisme, c'est comme si, eux, leur recherche d'identité et d'égalité historique, il est basé sur les moyens financiers. Il n'est pas basé sur le fait que chaque personne se sente appartenir à un peuple et qu'il estime que l'autre peuple est semblable à lui. Eux, ils essayent de retrouver en fait, ils veulent équilibrer les choses économiquement. Et moi, je suis totalement contre. Pour moi, ce n'est pas du tout l'issue. Et tant que ces gens-là appliqueront ça, je pense que l'égalité historique sera très compliquée, très très compliquée. Ouais.
Ah. La moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur le bon touche. Affrontera pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la sauveur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Chèque. Les négros en redemandent, passe un coup de fillette un peu frais sur comment tu me passes sur les réseaux, tu t'es ma m'écrit, tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka, on se bute à la peuf. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Paname c'est la Champions League, on blesse en Champions League. Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team.
Et voilà, merci beaucoup pour ta musique, Mitch. Ici, c'est toujours sur l'appartenance, les loisirs et passions. Dans tes loisirs et passions, Mitch, qu'est-ce qui te fait te sentir bien ou accepté ?
Bien, je me sens bien par exemple, dans le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, les séries, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le sport aussi. En fait, j'aime tout, j'aime beaucoup de choses, énormément de sports, je regarde tous les sports. Bon, j'aime pas pratiquer, mais j'aime bien regarder. J'aime écouter tout style de musique et regarder tout type de films, lire tout type de livres. Et c'est des choses que je me sens bien dedans.
Est-ce qu'il y a des activités ou des groupes où tu te sens vraiment, vraiment toi-même ? Plus toi-même ?
Je dirais dans la musique. Je me sens moi-même dans la musique parce qu'en fait, j'écoute tellement de styles différents que je me sens... En fait, c'est comme si la musique, dans ma playlist, il y a une part de ma personnalité à chaque musique. Donc ça veut dire que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de diversité dans mes choix de musique, parce qu'en fait c'est ma personnalité, j'ai beaucoup de... Je me sens appartenir à beaucoup de groupes, entre guillemets. En vrai, pour moi, ça ne devrait pas être un groupe, mais voilà.
Tu penses qu'il y a des codes pour entrer dans certains groupes, une langue commune, un centre d'intérêt ?
Oui. Personnellement, je trouve qu'il y a certains codes. Ça peut être un peu discriminant pour les gens qui aimeraient bien s'appartenir à certaines choses, mais... Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la personne assistante sociale, pour moi, il y a certains codes à avoir pour pouvoir faire la chose pleinement, comme il y a certains codes à avoir pour... Enfin, en vrai, je suis très mitigé, parce qu'en vrai, moi, je suis prêt à accepter tout le monde, même les personnes qui sortent du code, mais en même temps, je me dis quand même, il y a certains codes... Ça, c'est un peu un paradoxe, c'est un peu une contradiction, parce qu'en même temps, je me dis que je suis prêt à écouter tout le monde et à accepter tout le monde, mais en même temps, je me dis que pour les groupes qui me concernent, et je me dis que cette personne-là devrait avoir certaines choses pour pouvoir s'y apparenter. Et ça, je pense qu'en vrai, c'est la société, en vrai. Je pense que Je suis la société sur ce point-là, en vrai. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que si je déconstruis totalement cette image-là, je pense que je serais prêt à accepter n'importe qui et ne pas attendre certains codes d'une certaine personne. Mais je me dis aussi que il pourrait y avoir beaucoup de... En fait, si on n'a pas certains codes pour faire certaines choses, je pense que ça pourrait avoir des dégâts sur les gens.
Et le code, ça représenterait quoi ?
Le code, par exemple, on va dire, il y a un style de musique, je prends le rap. Pour moi, écouter du rap et d'être d'un certain bord politique, ce serait assez une dissonance à mes yeux. Donc, en même temps, je me dis, ben, tu devrais quand même... Si t'écoutes, tu devrais comprendre que comment t'es, ça va pas trop avec ce que t'écoutes, quoi. Mais en même temps, je pourrais pas lui dire, ben écoute pas.
Petite question sur la construction de soi et les ressources. Voilà, cette question-là, je l'aime bien. C'est ton originalité, ce serait quoi ? Et quelle qualité aimerais-tu que l'on reconnaisse chez toi ?
Très bonne question. Mon originalité, bon, très bonne question.
Oui, et ça fait pas un peu entretien d'embauche ?
Ah ouais ? Qu'est-ce que t'es prêt à amener à l'entreprise ?
Je suis désolé.
Non, t'inquiète pas, je comprends. L'originalité, à mes yeux, personnellement, pour moi, tout le monde est original, mais tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir la témoigner, je pense. Que beaucoup de gens sont enfermés dans certaines cases qui les empêchent de vraiment faire valoir leur personnalité. Et moi, personnellement, dans mon entourage, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, j'essaie toujours de faire ressortir leur personnalité. Toujours. C'est quelque chose, c'est obsessionnel chez moi. C'est
avoir une petite flamme ?
Mmh.
Tu penses que
oui.
Tout le monde ?
Pour moi, tout le monde a une flamme, c'est sûr. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est parce qu'on l'a éteint, à mes yeux, ou elle ne s'est jamais allumée parce qu'elle n'a jamais pu être allumée. Mais pour moi, il y a toujours une base de flamme chez tout le monde. Pour
moi. Tu crois que l'école, par exemple, ça participe de ça ? En fait, tous les accompagnements, dès que tu es tout petit,
oui.
Même la famille, c'est d'activer cette flamme ?
Pour moi, oui, normalement, ça devrait être ça. Pour moi, tout le monde devrait avoir une flamme qui s'active et tout le monde devrait faire tout son possible pour que le voisin puisse le faire.
Tu crois que la petite flamme, ça pourrait être l'envie de pouvoir, par exemple ?
Ah, ouais, c'est vrai que ça peut être une flamme pour certains, même si je suis contre. Mais ouais, là, c'est aussi, ça devient compliqué parce que pour moi, ce serait une flamme qui n'est pas forcément propice au vivant. En fait, pour moi, une flamme, ça devrait être quelque chose qui te permet de te sentir bien avec les autres et de faire un vivre ensemble, en fait, c'est ça. Pour moi, la flamme devrait permettre le vivre ensemble. Si ta flamme, elle est là pour dominer, c'est une flamme, désolé, mais pour moi, il faudrait l'éteindre.
Mais t'es pas un peu dans le contrôle, là.
Ouais, malheureusement, si, c'est ça le problème. Mais je me dis que si je contrôle pas les personnes qui essayent de contrôler les gens, eh bien, du coup, on s'en sort plus, il n'y a plus de vivre ensemble. En fait, c'est ça, c'est cyclique, malheureusement. Peut-être que je deviendrai comme ces gens-là que je critique, j'espère pas, mais je pense pas. Mais il faut toujours... Ouais, c'est compliqué.
Est-ce qu'on est obligé de se construire avec les autres, Mitch ?
Ça dépend, en vrai. Parce que, par exemple, quand on prend les Amazones du Brésil qui vivent dans la forêt, ils se construisent, en vrai, entre eux. Ils sont dépourvus de tout peuple autre que eux. Ils vivent dans la forêt, ils mangent leurs herbes, ils mangent les animaux. Bon, voilà. Mais en même temps, ils ont leur groupe qui leur est propre et c'est dans ce groupe-là. En fait, pour moi, non. T'es obligé de vivre avec les autres, en fait. Ouais, c'est tout. Parce qu'en fait, là, j'étais en train de démarcher dans le fait qu'en fait, on n'est pas obligé, mais en fait, on est un peu obligé. Parce que tous les schémas de la société te forcent à devoir développer ta personnalité vis-à-vis du fait que t'as un voisin et t'as quelqu'un qui est devant toi et t'as quelqu'un qui est derrière toi et t'es pas tout seul, quoi. Ouais.
We both know that it's not fashionable to love me, but you don't come. 'Cause truly there's nobody for you but me. We could cruise to the blues. We'll show Boulevard if we choose, or whatever you wanna do. We make the rules. Our honeymoon.
Merci beaucoup hein, pour ta musique, Mitch, et surtout, merci d'être là aujourd'hui.
Avec plaisir.
Société et vivre ensemble, c'est la dernière partie. Je te propose quelques petites questions aussi. Mitch, qu'est-ce que ça représente pour toi un pays où l'on vit ?
Un pays où l'on vit ?
Oui.
Déjà, premièrement, c'est un pays où on accepte tout le monde. L'équité, c'est ça déjà, premièrement. À partir du moment où tu considères tout le monde comme ton semblable, déjà, ça peut être une... C'est la première marche, pour moi, la plus importante, oui.
Et pourtant, c'est pas vraiment le cas.
Ah, malheureusement pas. Et ça devrait.
Est-ce que tu as l'impression, Mitch, que certains jeunes se sentent bien intégrés en Belgique ?
Oui. Oui, ils se sentent bien intégrés, des fois au détriment de certaines choses. Personnellement, je trouve que l'intégration... En fait, quand on essaye de... Enfin, là, ça va être aussi long. Hein. Désolé, j'ai pas envie de faire long, mais... Oui, il y a des gens qui se sentent bien intégrés. Pourquoi ils se sentent bien intégrés ? C'est parce qu'ils se sentent conformes à la société. Ouais. Et des fois, se sentir conforme à la société, c'est soit se laisser, soit abandonner ce que t'es, abandonner ce que t'aimes, malheureusement, pour rentrer dans les clous de la société. Donc oui, des fois, être intégré, ouais. Il y en a beaucoup qui se sentent intégrés, oui.
Il n'y a pas de compromis possible ? On ne peut pas trouver son équilibre malgré tout ?
Si t'es prêt à accepter, enfin, si tout le monde est prêt à accepter tout le monde comme il est, oui, il y a un compromis qui est fait. Mais si tu attends qu'une personne soit d'une certaine manière, bah non, ouais, pas de compromis possible à mes yeux. Enfin, si, légalement, il y a d'office un compromis parce que tu peux pas. Personne n'a un droit supérieur à l'autre. Donc, légalement, non. Il y a déjà un compromis qui est fait. Mais dans les rapports sociaux, il n'y a pas de loi, en vrai. Dans les rapports sociaux, c'est qu'une question de. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué.
Est-ce que certains jeunes, Mitch, ont plus de difficultés à se sentir appartenir à la Belgique ? Et pourquoi ? As-tu des exemples ?
Ben, personnellement, moi, je me sens déjà pas forcément... Ben, je me sens appartenir à la Belgique, mais je suis pas patriote. Ça veut dire que, ni pour mes pays d'origine, la nation, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'éveille, en fait. C'est pour moi... Enfin, bon, j'ai pas envie de rentrer dans des propos, mais... Pour moi, tout le monde devrait se sentir être soi-même, accepter l'autre. Bon, se sentir belge, si c'est important pour cette personne-là, je lui accorde. Après, est-ce que être frustré que l'autre ne se sent pas belge, essayer de comprendre d'où ça peut venir, pourquoi cette frustration du fait que l'autre personne ne se sent pas belge, alors que pour moi, c'est juste un territoire avec un drapeau et une histoire, oui, mais voilà. Ouais.
À ta place, un jeune me disait que... Il se sentait appartenir davantage à son quartier qu'à la Belgique.
Et alors là, je partage son avis. Je partage son avis parce qu'en fait, personnellement, moi, je me sens plus appartenir au peuple belge qu'à la Belgique. C'est-à-dire que moi, genre comme je disais, « belongs to the people », pour moi, j'appartiens au peuple. J'aime être avec le peuple, j'aime être avec les gens qui sont des fois opprimés ou discriminés ou qui n'ont pas une certaine position. Ça ne m'intéresse pas de me sentir appartenir à une personne qui est supériorisée ou plus valorisée que d'autres sur base de choses avec lesquelles, ben, par exemple, le niveau académique, moi, je m'en fous. Donc, je ne vais pas supérioriser quelqu'un par rapport à ça. Donc, j'aime bien me sentir avec le peuple. Et je comprends ce jeune homme-là qui se sent plus proche de son quartier que de la Belgique parce que c'est des gens avec qui il se sent à l'aise, qui se sent semblable, il se sent pas opprimé par ces gens-là, il se sent être lui-même, il se sent être aimé, il se sent être accepté, et je comprends tout à fait pourquoi il pense ça. Ah oui, ça c'est sûr.
Mitch, la Belgique est faite d'une immense diversité. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette diversité ?
La diversité, ce qu'elle représente pour moi, c'est l'ouverture d'esprit, l'acceptation, le vivre ensemble, l'apprentissage des nouvelles cultures, des cultures qui diffèrent. Comment ça se fait que mon voisin, il est de cette origine-là, alors que quand je regarde à la télé, on me dit qu'en fait, les gens de ces origines-là, bah, ils sont ci, ils sont ça, alors que mon voisin, si. J'essaie de comprendre comment ça se fait, qu'on pense ci, et tout ça. C'est des schémas de pensée pour moi, en fait, la diversité. On réfléchit.
On pourrait en faire quelque chose de mieux ?
Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, pour moi, oui. Quand je vois certaines choses qui sont dites... Il y a des gens qui sont très opposés à la diversité, par exemple. J'essaie de comprendre pourquoi. En même temps, je peux comprendre. En même temps, je sais que les raisons pour lesquelles ils le ressentent, c'est basé sur des choses, des fois, qu'ils ne conscientisent pas forcément et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ça me dérange que l'autre soit différent de moi. C'est des fois, ils ont pas, ils le conscientisent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas envie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas encore eu l'opportunité de le faire? C'est à débattre.
Ce que je vais te proposer maintenant, Mitch, c'est une conclusion express avec trois questions.
Dis-moi.
Et alors, ben la voici. Qu'est-ce que tu retiens du mot appartenir après tout ce qu'on vient de se dire?
Ce que je retiens du mot appartenir après tout ce qu'on vient de dire, que en fait, l'appartenance, c'est un peu un sentiment qui est basé sur le fait de ressentir des liens avec des gens qui te sont semblables souvent dans la société, mais à mes yeux, la différence devrait être acceptée de plus en plus et être prêt à se sentir appartenir à des gens qui diffèrent de nous. C'est quelque chose de très important pour moi. Oui.
Tu peux rappeler pourquoi c'est important d'aller vers la différence, justement? Qu'est-ce qu'on apprend de cette différence?
Ben, en fait, c'est, pour moi, c'est un enrichissement culturel et éducatif. On peut commencer à accepter plus l'autre, essayer de comprendre pourquoi il a un schéma de pensée différent de nous, comprendre peut-être que nous, on avait eu certains privilèges ou que lui, il n'en avait pas certains, etc. Certaines positions, des schémas de familiaux qui sont différents, des moyens financiers différents, etc. Et très important pour moi.
Si tu devais résumer l'appartenance en un mot ou une image, ce serait quoi?
L'appartenance pour moi en un mot, en une image, moi je dirais que c'est en vrai l'image de la planète Terre vue de l'espace en vrai pour moi. Pour moi c'est ça le sentiment d'appartenance, on devrait tous se sentir appartenant à la même planète. Et les continents sont divisés quand on le regarde dans l'espace, et c'est un fait, les continents sont divisés parce qu'en fait chaque groupe a des rites différents, culture différente, à une histoire différente, et que c'est très important pour moi de s'intéresser à comment ça se fait que aussi loin là-bas, les gens ils sont différents de nous, et je suis curieux de comprendre comment ils vivent, et etc. Ça diffère de nous, ouais, peut-être qu'en fait ça peut être bien pour nous, etc. Plutôt que, ah ben non, nous on est mieux qu'eux, ils font encore ci à cette époque-là de la vie, comment ça se fait, ils ressemblent à ça, etc.
Et pour toi, appartenir, ça rend plus fort ou ça complique la vie?
Pour moi, ça peut rendre plus fort comme ça peut compliquer la vie. Par exemple, des fois, bon, là je vais faire vite, mais en fait des fois, il y a des personnes qui se sentent tellement infériorisées, qui vont se sentir appartenir à une classe qui est infériorisée, et ce sentiment d'appartenance exacerbé, en fait, il peut des fois créer un sentiment de supériorité chez certaines personnes. Je vais donner un exemple très précis, mais par exemple, il y a le kémitisme qui existe en Afrique. Ça vient du panafricanisme, en fait. Ça veut dire qu'il y a certains pays africains qui ont des populations kémites, et donc le kémitisme, c'est basé sur l'Égypte antique, tu vois. Par exemple, le fait qu'à la base, on était tous noirs de peau, pour eux, enfin, c'est factuel, mais voilà. Et du coup, ce sentiment-là d'infériorisation historique, oui, comment ça se fait que nous, les Noirs, on a subi ça, alors qu'en vrai, on était puissants, etc. Et du coup, ça crée une espèce de rééquilibrage historique, mais basé sur un sentiment de puissance qui, des fois, ça crée une supériorité. Donc, mais en même temps, le sentiment d'appartenance, il permet aussi de te sentir accepté quand tu ne te sens pas accepté par la masse. Ça te permet de te rassurer aussi. Et c'est aussi important. Ouais. Voilà.
Mitch, merci infiniment pour ton partage.
Merci à toi.
C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et j'espère que cette discussion sur l'appartenance donnera à chacune et chacun des idées pour mieux se connaître et se sentir connecté aux autres.
Ouais, très important, très important.
Et on va se quitter avec une... Et en fait, je suis heureux de t'avoir rencontré. Hein. Ça, c'est
pareil.
Vraiment. Et je te souhaite en tout cas la meilleure suite possible.
Merci à toi aussi, c'est très gentil. Je suis encore jeune, j'ai la vie devant moi, donc je serai là, peu importe où, je suis avec Mucho toujours.
À bientôt.
À bientôt, hein. Salut.
Dis, t'as pensé de quoi de toi, au fait?
C'est-à-dire?
Bah de ça ici.
Oh, bien. Moi, je pensais que c'était bien, j'ai bien aimé, j'aime bien parler, j'aime bien. Même ça me permet de réfléchir et à revoir mes avis sur certaines choses. Il y a des choses, des fois, ça me conscientise, etc.
J'ai pas aimé. Est-ce qu'on peut se dire un au revoir, mais un peu plus chaleureux?
Oui, pas de souci.
Mais comment on le fait?
Personnellement?
Oui.
Moi, je fais des checks. Hein. Moi, c'est check. Je fais comme ça.
Attends. Ah, je sais pas faire. Moi,
non, comme ça.
Non, il faut que tu m'expliques.
Et puis, on fait comme ça. Voilà, ça s'appelle un check. Hein.
Merci.
Avec plaisir.
Ça, j'aime bien. Au revoir.
Au revoir, salut.
Si on s'en branle si t'es chaud, impossible qu'on échoue, je te gifle avec une quicheta. Calme-toi. toi. Prends le que gère ça près du four, mais dans le hall il fait grave froid. Elle aime les méchants, bandits grave frais. J'ai pas besoin de feu pour le défi. Je suis devant ta plante, négro. Est-ce que t'as capté la surprise? Le bigoson fait les bails. J'ai une barre dans ton boule. Je suis foncé comme un débile. On se débrouille, pas besoin de brailler. On porte nos couilles et des flingues tout neufs. Pas de bluff, que des grosses baffes. Que de la bœuf qu'on ravitaille. Double bang 6 heures. Après, viens pas sucer. C'est nous les mecs ici, donc on prend le dessus. C'est pas fastoche, c'est nos lives, pas du cinoche, fiston. Moi j'ai le magot pour le festin. Je cours après le temps, l'argent, le destin. Pas de mystère, l'équipe est pistée. C'est soit tu manges ou tu te fais manger. On croit en Dieu, nous pas de magie. 2 grammes la dose, est-ce que tu piges? Pas de chromo gauche, fais tourner le bis. Suce pas pour le buzz, ton équipe est guest. Rempli d'angoisse, vous puez la loose. Que des coups de feu, aucun coup de foudre. En vrai on s'en branle de ce que tu racontes. Dis combien ça coûte, on prend la marchandise et on se casse. La bande à capitaine mène au score. Mais ça empeste le stupéfiant. Sois pas stupéfait quand on y les fait. Faut combler sa faim. On a commencé par la fin. On t'attache pas de chance. On viscère jaune blanche au postiché comme d'hab. Carpé coffré sous une tonne d'habits. Pas de combat c'est ton gain qu'on boit. Pas de coup de main c'est bon t'es dans le bain. Ok ok ok.
Toujours un quotidien de bâtard. J'fais du blé grâce à mon patard. J'tiens le sac de dope comme un cartable. Les parts ne sont pas équitables. On pèse grave, tu connais, j'suis dans les jazz. On pèse grave, tu connais, j'suis dans les jazz. Mon tel sonne donc c'est l'oseille, tu connais, j'suis dans les jazz. Mon tel sonne donc c'est l'oseille, tu connais, j'suis dans les jazz. Toujours un quotidien de bâtard, j'fais du blé grâce à mon patard. J'en le sac de dope comme un cartard. Les parts ne sont pas équitables.
Mon tel sonne donc c'est l'oseille, tu connais, j'suis dans les jazz.
Mon tel sonne
donc c'est l'oseille, tu connais,
j'suis
dans les
jazz. Mon tel sonne donc c'est l'oseille, tu connais, j'suis dans les jazz. Toujours un quotidien de bâtard, j'fais du blé grâce à mon patard. J'en le sac de tout comme un cartard, les parts ne sont pas équitables.
Yeah.